Hello à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Laetitia Lamarie, je suis accompagnée d'Adrien. Aujourd'hui, c'est le vendredi 8 octobre 2021. Vous écoutez LCDE, le podcast Le Café de l'e-commerce. C'est la saison 3, épisode 89. Hello Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, je suis ravi d'être avec toi Laetitia. Adrien, ici accompagné de l'instagrammable Laetitia, quand elle poste des photos sur les réseaux sociaux, ça clique dans tous les sens et ça affole l'algorithme. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité du e-commerce.
LCD vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles et aussi derrière votre écran pour celles et ceux qui nous suivent désormais depuis ce live tous les vendredis. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky avec Skippers qui a la fièvre acheteuse, Rihanna qui décide de tout simplement et très modestement d'ouvrir des boutiques et Beau Manoir qui sauve une enseigne française. Comme je vous le disais tout à l'heure, Amazon qui ouvre une boutique non alimentaire à Londres. Et enfin, notre invité, Eli Ozanski, un habitué du podcast qui va nous dresser un panorama du paysage e-commerce de cette rentrée. Comme à chaque fin d'émission, on s'amusera avec un jeu et je vous donne un indice, le milliard. Adrien,
Laetitia,
prêt.
Synchronisation des mondes.
J'avais oublié, synchronisation des mondes, pardon.
Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Allez Skippers qui décide de s'offrir Ivancy et Octoly, ce sont deux plateformes de marketing d'influence.
TikTok s'associe à Shopify pour lancer TikTok Shopping.
Et je l'ai testé, enfin je suis en cours de le test. Carrefour déploie les drives piétons robotisés pour les e-commerce non alimentaires.
L'enseigne Carole, rachetée par le groupe Beau Manoir.
Savage X Fenty, c'est la marque de Rihanna, la marque de lingerie de Rihanna. Eh bien, Rihanna, tout modestement, elle a décidé d'ouvrir ses premières boutiques physiques, d'abord au UK et aux États-Unis, et puis bientôt en France pour 2022.
La news what the fuck de la semaine, Laetitia.
Ben vas-y, c'est toi, c'est la tienne, c'est pas la mienne.
Le constructeur auto Hyundai propose ses véhicules sur Amazon. On parle de produits qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour le moment, c'est aux États-Unis. Donc, tu ne peux pas encore acheter complètement ta voiture sur Amazon, mais tu peux voir les modèles, la configurer et choisir le reseller qui est le plus proche de ta zone. Et alors, j'attends l'inverse. Quand est-ce qu'on pourra acheter dans les voitures autonomes qu'on puisse acheter sur Amazon? Et la boucle sera bouclée.
Mais Adrien, c'est que j'ai oublié le nom de la plateforme, mais c'est déjà possible. On avait déjà reçu des invités qui nous avaient dit qu'on pouvait déjà acheter une voiture depuis j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, mais en tout cas c'est possible.
Et c'est fou de voir que c'est en train d'arriver.
Et la news inutile dont tout le monde se fiche, dont on s'en balèque, c'est la SNCF qui revendique le chiffre de 1 million de billets vendus sur Oui SNCF en 100% cloud en un jour. Bon, on s'en fiche un petit peu.
Non, en fait, la communication de SNCF, c'était surtout OK pour vendre 1 million. Et c'était pour faire la promotion qu'ils ont tout migré dans le cloud. Je trouvais qu'il y a très, très peu d'intérêt. Et pourtant, ça a été repris
partout.
Un peu partout. Mais bon, sans contexte, c'est un petit peu dire.
Non, bon, c'est pas mal, bravo. Mais en fait, on s'en fout. Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on partage des notes et reviews qu'on a fait de nos côtés. Adrien, qu'est-ce qui se passe chez toi?
Moi, il s'est passé pas mal de choses. En fait, comme ça fait depuis l'été qu'on n'a pas enregistré un épisode de classique, on va dire, j'avais noté deux, trois petites réflexions de la rentrée. Déjà, tout va bien. Merci de demander, Laetitia.
Je m'en fous.
Je voulais juste de partager des petites choses que je vois là depuis la rentrée dans le domaine de l'e-commerce. Déjà, je vois du headless partout. Donc, ça y est, cette terminologie, elle a été prise et reprise un petit peu partout. Donc on le voyait déjà utilisé dans d'autres secteurs que l'e-commerce, mais là tu as des Vectex, des Commerce Tools, des Salesforce, des BigCommerce. Alors Salesforce qui sont amusants parce qu'il y a un an ils t'expliquaient que le headless ça servait à rien et que c'était du bullshit marketing. Là ça y est, tout le monde s'est emparé de la terminologie et on commence à voir des choses se différencier avec du composable commerce, mais c'est sorti de l'e-commerce. Le headless on le voit dans toutes les news, c'est un petit peu le nouveau buzzword, tout comme le quick commerce. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le secteur. On va en parler, on va dédier peut-être pas un épisode, mais en tout cas on va faire un focus particulier là dans quelques semaines sur le quick commerce. Et petit rappel Laetitia, le quick commerce c'est les achats de première nécessité que tu vas pouvoir recevoir chez toi en moins de 10 minutes. En tout cas c'est la promesse, en quelques minutes. Tu as juste le temps, tu es en train de cuisiner, il te manque quelque chose par exemple, tu le commandes et tu le reçois aussitôt. Et enfin la dernière petite réflexion que je voulais te partager, tu te souviens l'année dernière, exactement à cette date quand je regardais un petit peu l'actualité où est-ce qu'on en était, on parlait de Shippageddon. Est-ce que tu te souviens ce que c'était le
Ah, mais oui, c'était la crainte de ne pas recevoir ses colis pendant le peak season. Donc, le peak season, ça va commencer là très bientôt. Je crois que ça commence avec Black Friday, puis jusqu'à Noël. Donc, c'est la peur de ne pas recevoir à temps tous ses colis. C'est ça ou...
Exactement, c'est exactement ça. Donc, l'année dernière, c'était un peu comme le bug de l'an 2000. On disait, tout va se casser la figure, c'est la fin du monde. On ne va pas pouvoir gérer les flux de commandes. Et bien, c'est reparti. Et je sens que cette année, ça va être la même chose que l'année dernière. Je commence à voir beaucoup de transporteurs qui s'inquiètent, de retailers qui s'inquiètent, ou tous ceux qui sont en fait en premier, ça commence ceux qui travaillent dans la supply. Et donc, je pronostique beaucoup d'actualités autour de ça. Et toi, Laetitia, quoi de neuf chez toi?
Moi, pas grand chose, à part que je ne vais pas revenir sur la panne Facebook. En revanche, moi, je vais revenir sur les conséquences dont on ne parle pas souvent de cette panne. Alors, bien sûr, c'était compliqué pour les Instagrammeuses qui vivent énormément de ces plateformes. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vivent de ces plateformes. Et je pense notamment à toutes ces boutiques en ligne, notamment par exemple en Afrique, qui ont développé tout leur business sur Facebook et aussi sur WhatsApp. Parce qu'on l'a souvent dit ici au commerce, au micro, et on a eu beaucoup de... on a eu notamment Marie, je crois, qui nous avait parlé des méthodes de consommation, notamment en Afrique, qui se font essentiellement sur Facebook et aussi sur WhatsApp. Et donc, si pour Facebook, la perte a été considérable, elle a été tout autant... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, ça concernait entre 3 000 et 4 000 euros pour certains commerçants africains. Je vous ai mis un article, vous le verrez dans les notes.
De perte de revenus,
et c'est énorme. Et en fait, moi, à chaque fois, je me disais, non, mais tout le monde nous dit, oh là là, c'est bien, on a pu vaquer à nos occupations, et puis tant pis pour toutes ces petites Instagrammeuses, ça va leur faire du bien. En fait, il y a aussi toute l'industrie de la mode. Je rappelle que le soir de la panne, c'était quand même le big show de Etam, et en fait, ce big show, il est essentiellement retransmis sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, en termes déjà d'image, et puis en termes de com, complètement foiré, et puis toutes les Instagrammeuses qui vivent essentiellement de ça, et qui ont beaucoup de partenariats, et c'est chaud, donc c'est vraiment tout un système économique qui pendant 7 heures n'a pas vécu. Et donc là je parle aussi de tous ces petits commerçants. Alors juste je termine, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, Mark Zuckerberg était quand même le premier à dire, moi je veux vous aider petits commerçants à aller en ligne, synchroniser toutes vos plateformes, notamment via Shopify, sur tout le groupe Facebook, et vous allez voir, c'est le commerce de demain. Ok, pendant 7 heures, qu'est-ce qui se passe? Comment les dédommages ces gens? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché, je
sais
pas.
Alors c'est amusant l'angle dans lequel t'as pris cette panne, parce que moi je l'ai plutôt vu sous l'angle perte de confiance envers Facebook, ou quelle est la réaction de Facebook vis-à-vis justement des utilisateurs, et est-ce que ça va avoir un impact financier ou en tout cas de la part des administrateurs ou des investisseurs. Et au final, je ne me fais pas d'illusions, c'est comme d'habitude avec Facebook, ils sont très gros, tout le monde leur tape dessus, mais au final, les excuses, elles étaient là, mais elles étaient vraiment platoniques, et ça a très peu d'impact. Donc il y a eu un petit creux dans le bourse.
Il y a eu une grosse perte en bourse.
Il y a eu de la perte, mais ensuite ça a repris, et je suis certain dans quelques semaines, parce que l'année dernière, en début d'année, il y a eu des scandales monstrueux. Ces dernières années, il y a eu des gros scandales.
Encore et aujourd'hui.
Donc voilà, oui. Et puis il y a eu également les révélations. Donc je ne sais pas trop si ça aura un impact long terme sur Facebook.
Mon propos, c'est de dire, ok, c'est très bien, les excuses ont été présentées, on a beaucoup dénigré les Instagrammeuses. Or, il y a tout un secteur économique qui se développe sur les applications du groupe Facebook, et en l'occurrence, on n'a rien entendu sur ça. Et Mark Zuckerberg n'a pas prévu de plan pour dédommager tous ceux qu'il a incités à aller sur ces plateformes pour faire du commerce.
Merci Thierry, on passe à la suite.
Breaking news! Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat, et le tout sans langue de bois. On a déjà un peu commencé là. Adrien, tu veux nous parler? Non, sans langue de bois.
Ah, ok, d'accord, ok, je pensais que tu me parlais. Ça fait du bien de réécouter ces petits jingles là, ça m'a manqué, ça
Attends,
fait presque 3 mois.
Attends, qui chante ça?
Mais je sais très bien, on va laisser les auditeurs. Je sais très bien, c'est
qui? Ouais, tu sais
on
pas.
On a
tu
fait
pas.
Les jingles ensemble.
Tu sais pas, ouais, mais tu sais pas.
Mais bien sûr que je sais.
C'est Alliance Technique, 1995. Simple et funky. Allez, c'est bon.
C'est moi qui choisis tous les jingles de cette émission et tu me demandes ça.
C'est moi.
Alors écoute, moi j'avais gardé deux news pour cette semaine. La première, c'est quelque chose qui est arrivé là le 6 octobre, donc c'est il y a cette semaine, il y a deux jours au moment où on enregistre, et c'est le rapport Forrester sur les marketplaces. Je suis toujours, comme vous le savez là depuis plus de 2 ans, je scrute là les Gartner, les Forrester, les analystes quand ils regardent un petit peu les technologies, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu où vont les technos, comment est-ce qu'ils innovent et comment ils se comparent, comment ils se comparent entre eux. Alors le Forrester, il a regardé environ 14 acteurs du marché. arrivés. Il y en a quelques-uns que je connaissais pas. Je vais en citer quelques-uns que j'ai découvert. Arcadie, ils sont assez connus. Iceberg, on connaît bien Laetitia. Marketplacer, Miracle, bien sûr. Oro, Persistent System, Sidecore, Spryker, Vtex et d'autres. Ils ont regardé l'architecture, la satisfaction client, le pricing, la vision, la roadmap, la présence sur le marché. Donc, il y a pas mal de critères. Et ils en sont arrivés à un rapport où tu vois un petit peu les leaders qui tirent le marché vers le haut et puis ceux qui sont un petit peu à la traîne. En leader, on a Miracle et AppDirect, boîte de San Francisco et Miracle, boîte française. Ce qui m'a étonné, c'est que plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché des marketplaces et ils ont des backgrounds très différents. Il y en a qui viennent du B2B commerce, de plateforme e-commerce traditionnelle, du CRM, il y a même de l'intégration et d'autres qui sont pure players, enfin qui se sont créés comme Miracle par exemple, qui se sont créés depuis le début sur la marketplace. Donc, tu as un marché où, en tout cas sur ce rapport, tu as 14 acteurs et tu vois que le marché, il est assez riche. La deuxième chose qui m'a marché, ok, on est chauvin, Laetitia, on se dit Miracle, c'est des restas, c'est une licorne, etc. Je ne me rendais pas compte à quel point ils sont vraiment en avance par rapport aux autres acteurs. Et quand tu le vois, il y a certes les leaders Miracle et AppDirect, mais même entre les deux, Miracle est vraiment en avant. Ensuite, il ne faut pas se faire d'illusions, ces rapports d'analyse, en fonction de la pondération des critères, ils peuvent te faire les rapports qu'ils veulent. Mais bravo à Miracle, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous aurez un lien direct pour regarder le rapport et sinon vous regardez juste les images, c'est comme une BD pour les enfants, vous voyez l'image et vous comprenez tout de suite où se situent les différents acteurs. Et la petite chose que je regrette, c'est par rapport au Forrester versus le Gartner quand ils font des analyses, il n'y a pas vraiment de contexte quoi, c'est assez light. Alors peut-être qu'il y a un rapport plus complet et j'y ai pas accès, quoique j'en doute, mais en tout cas le rapport auquel j'ai accès, il n'y avait pas d'analyse de fond sur le marché, les tendances, où est-ce que ça va, les challenges, les choses qui sont communes à toutes ces plateformes, tu vois. Ce que j'aimais bien avec le Gartner, quand notamment cet été ils ont lancé l'analyse des plateformes e-commerce, ils t'expliquaient un petit peu justement le headless, les API et vers où est-ce qu'on allait. Donc un bon rapport et du coup ça m'a donné très envie d'aller inviter quelques j'ai regardé, il y en a certains qui ont une présence en France, donc je vais essayer de me rapprocher pour essayer d'avoir plus d'informations. La deuxième news, elle est un petit peu moins récente, elle date d'il y a, je crois, une ou deux semaines, et c'est à propos de Google. Alors, je pourrais te dire Google se lance dans l'e-commerce, mais ça ne veut rien dire du tout parce qu'ils sont déjà dans l'e-commerce. Je pense que c'est dans la continuité de ce qu'ils ont commencé déjà depuis un moment. L'année dernière, tu te souviens, c'était jour pour jour l'année dernière d'ailleurs, ils ont permis la possibilité de partager tous les produits pour les retailers gratuitement, de lister gratuitement sur Google Shopping. Donc, on se comprenne bien, quand tu es retailer et que tu as des produits, tu vas pouvoir pousser tes produits sur Google Shopping et ensuite, il y a toujours le système de publicité. Si tu vas apparaître en haut, tu vas devoir payer. En tout cas, le listing est gratuit. Et là, qu'est-ce qu'ils ont annoncé sur leur blog il y a quelques jours? La première chose, une amélioration de Google Lens. Est-ce que tu utilises Google Lens? Tu vois ce que c'est? Parce
ouais,
que toi, tu as un iPhone.
Ouais, oui, mais tu n'utilises pas. Non, je ne l'utilise pas.
Alors, c'est bien parce que. Alors, je vais d'abord expliquer, ensuite, je vais dire ce que j'en pense. Google Lens, donc, c'est. Je crois que c'est par défaut. Je suis quasi certain que c'est par défaut sur Android. Il faut le télécharger sur les iPhones. J'ai un Android, donc je suis plus à l'aise là-dessus. C'est une application qui te permet de lancer une caméra et d'analyser un petit peu ce que tu vois. Typiquement, tu peux le mettre sur du texte, il va reconnaître des choses, ou sur des QR codes. Moi, je m'en sers pour le QR code. Et en plus, c'est d'actualité, donc je le sors régulièrement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une application qui est très peu utilisée. Donc, l'impact que ça peut avoir, il est assez limité. Ce que permet la mise à jour justement de Google Lens, c'est de reconnaître des objets et tu vas pouvoir cliquer dessus et acheter des objets similaires. Il y avait d'autres actualités sur les mises à jour shopping. La possibilité d'acheter directement dans le moteur de recherche. Alors, tu me dis, rien de neuf sous le soleil. Et c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est en fait un redesign de l'interface. Donc, dans le moteur de recherche, tu vas pouvoir avoir une meilleure catégorisation. Ça ressemble un peu plus à un site internet où tu vas avoir la catégorie, la sous-catégorie et les filtres. Là, tu vas voir l'interface, elle va changer légèrement. Et enfin, dans la même idée de revoir l'interface, tu vas pouvoir directement dans Google aller sur une boutique et tu vas pouvoir regarder l'inventaire de la boutique. Donc, si tu as une boutique avec un certain nombre de produits et un inventaire, tu vas pouvoir, au sein de cette boutique, aller retrouver les produits.
Les stocks.
Les stocks, exactement.
Oui,
exactement. Les stocks, mais avec la hiérarchisation et les okay. informations qui sont rattachées à une boutique. Donc, pareil, les informations de stock, à ma connaissance, elles n'étaient pas disponibles. Et là, c'est vraiment un redesign de l'interface. Mais ça fait toute la différence parce que le challenge pour Google, on avait parlé depuis plusieurs mois, c'est que les gens vont sur Amazon pour acheter et pas sur Google. Donc, ils font tout pour essayer de retenir le consommateur sur Google. Je terminerai juste sur une chose, Laetitia, c'est qu'en fait, moi, je vois tout ça comme des améliorations cosmétiques. c'est super important, hein. L'UX et le design, tu peux construire des empires dessus. Là, Google, ils sont en train de revoir leur interface pour essayer d'embarquer le commerce dans leurs différents produits. Faut voir comment est-ce qu'ils vont continuer sur leur positionnement. Je ne crois pas que Google demain lancera une solution ad hoc ou quelque chose qui va vraiment disrupter. Je vois plutôt une évolution de leur service vers de l'e-commerce, et ils ont en ligne de mire capter les consommateurs et faire en sorte que les utilisateurs restent dans l'écosystème Google et vont pas sur Amazon, Vinted ou autre.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, Adrien. Tout ça me paraît très esthétique. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est un peu les basiques de la vente en ligne que Google n'avait pas mis en place. Donc, je suis très curieuse de savoir si ça va d'abord être lancé aux États-Unis ou partout. T'as cette info ou...
En général, c'est d'abord aux US, mais tu as raison. Je n'ai pas cette information, Laetitia, donc je vais investiguer et je reviendrai vers toi, sinon tu me le demanderas tous les jours.
Amazon, c'est notre rubrique préférée. En tout cas, c'est celle qu'on a créée en premier avec Adrien. Alors qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur, consommateur, on a tous une idée sur Amazon. Et Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Adrien, qu'est-ce que tu as chopé sur Amazon ?
Deux, trois petites choses. La première, tout le monde en a entendu parler, donc c'est pas directement de l'e-commerce, donc je vais passer rapidement dessus. C'est la grosse faille de sécurité, ou en tout cas le hacking de Twitch qui appartient à Amazon. C'est la plateforme réseau social, on va dire, vidéo axée plutôt gamer, même s'ils font beaucoup plus de choses, on va dire l'ADN, c'est autour du gaming. Les informations qui ont été volées, c'est surtout des informations autour du code source de la plateforme et des projets qu'ils avaient développés. Donc c'est du code plus qu'autre chose, et il y a des informations sur les streamers, combien il gagnait, donc il y avait de l'analyse,
ouais, des
infos. Alors pas d'informations personnelles, ouais. Quoique si par définition,
le paiement, combien tu gagnes, le salaire, c'est un peu perso.
C'est vraiment les mots de passe aussi qui étaient cryptés, donc ils sont pas en clair, mais effectivement ça a été partagé. Donc on va voir l'impact que ça pourra avoir. Il y a déjà plein de théories qui tournent autour de comment Amazon gère Twitch, est-ce qu'ils sont autonomes et donc du coup ils avaient moins de sécurité, ou est-ce que justement ils étaient dessus. Donc je pense que dans les prochains jours il y aura des enquêtes et on comprendra un petit peu mieux ce qu'il s'est passé. C'est la deuxième news Amazon. Lucia, tu veux en parler ou j'en parle ?
Oui, je vais en parler. C'est l'ouverture d'un magasin non alimentaire Amazon à Londres. Donc ça se passe dans le nord de Londres. En fait, ce magasin, c'est pas du tout un Amazon Go ou un Amazon Fresh. En réalité, vous ne trouvez rien d'alimentaire. En revanche, vous retrouvez, je crois, le top 10 des articles sur Amazon UK, du coup, qui sont proposés dans cette boutique. C'est bien dommage parce que j'étais à Londres il y a quelques jours, j'aurais bien voulu y aller. Non, j'ai loupé le coche. La prochaine fois.
Ouais, et puis donc c'est le deuxième magasin qui
ouvre. Ouais, c'est le deuxième.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont sélectionner, donc ils ont quelques catégories, mais ils vont vraiment sélectionner les produits qui sont sur le site, notés 4 étoiles et plus. Donc a priori, quand tu vas là-dedans, tu vas trouver des choses qui ont été plébiscitées par les utilisateurs, donc ils sont plutôt appréciés.
Retour vers le futur, c'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions, qui étaient souvent fausses d'ailleurs, et nos analyses, et on vous en fait part. Allez, montez dans la DeLorean et c'est parti. Il y a un an, c'était l'épisode 54 et c'était le 8 octobre.
Adrien, c'est quoi ce jingle? Je connais pas du tout. On l'a fait à chaque fois.
Non, ça y est, mais il est un peu pourri, je trouve, mais c'est pas grave. C'est un mélange de Retour vers le futur en fait, et de Game of Thrones, je trouve.
Non, c'est Retour vers le futur, mais effectivement, pourri. On n'a pas changé les jingles. Merci Laetitia de partager ton avis sur nos jingles. On n'a pas changé les jingles, on voulait pas faire trop de changements, mais il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver d'ailleurs dans les tuyaux. On en a pas parlé d'ailleurs. Dans une ou deux semaines, normalement, on devrait dévoiler un projet secret.
Mais chut.
Alors,
retour vers
le futur.
Disait,
donc, l'année dernière, pile le 8 octobre 2020, on enregistrait l'épisode 54. On n'avait pas d'invité pour le coup, et il y avait beaucoup d'actualités. On parlait de Shippageddon avec 700 millions de colis qui étaient à risque de ne pas arriver. Alors attends, spoiler alerte, je vous dis tout de suite, ça s'est très bien passé, ou en tout cas il y a peut-être eu des retards, mais en janvier plus personne n'en parlait. On parlait des RGPD qui s'appliquent aux restaurateurs. Tu te souviens les histoires amusantes, comment les informations étaient traitées. Amazon qui lance un service de personnel shopper en ligne, ça s'appelait Personal Shopper by Prime Wardrobe. Alors j'ai regardé, à ton avis, est-ce que ça existe toujours ou pas ?
Ça doit exister, mais aux États-Unis encore.
Correct. Tu sais qu'ils abandonnent beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça fonctionne. Parce que ça continue. Donc, c'est toujours disponible aux États-Unis. Je suis allé dessus, j'ai vérifié. Et puis, ça fonctionne. On avait également parlé du lancement d'Amazon One. C'est le paiement avec la paume.
Avec la paume,
c'est toi qui en avais parlé. Ouais. Et un an plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a 60 magasins Amazon qui en parlent. Et surtout, il y a quelques jours, c'est une boîte de divertissement qui vend des billets qui a mis ça à disposition. Donc, Amazon l'a mis en disposition en marque blanche et qui permet justement d'aller dans des salles de concert ou des événements directement passer. Donc, tu peux plus rapidement, ça je la fuit, les foules. En tout cas, ça va dans la direction de ce qu'on expliquait, que toutes ces technologies qu'Amazon est en train de développer, ça a également vocation à être vendu à en marque blanche pour des sociétés tierces. On avait parlé de Selling Blue qui a levé 140 millions d'euros. Il ne s'est rien passé jusqu'à cet été. Cet été, Zbra, 40 millions pour acheter trois boîtes. Metrito, Chatra et Pushhole dans l'analytics, le chatbot et les push notifications. Écoute, Selling Blue continue de faire de l'actualité et on va voir comment ils vont intégrer ces solutions et comment ils vont se positionner. Et enfin, SAP qui rachète Imarsis. Ça, c'était vraiment une très, très grosse actualité pour ceux qui sont dans ce secteur depuis des années.
Rappelle un peu peut-être ce que c'est SAP et Imarsis.
SAP, gros acteur logiciel allemand qui a beaucoup de briques customer, notamment e-commerce, et pour justement aller dans la brique customer experience, ils ont racheté la plateforme Imarsis, qui est une plateforme de marketing, on peut dire ça comme
c'est ça, connue marketing sur l'emailing. Automation.
Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, ce qui m'a étonné pour le coup, c'est que j'ai rien vu passer autour de ça.
Non, il n'y a pas eu genre d'anniversaire ou
d'actualité même autour
si
ou de rebranding.
Peut-être que ça va être publié à midi ou plus tard, mais en tout cas, il n'y a pas de gros anniversaire sur ce rachat, quoi.
Quand des grosses boîtes comme ça rachètent, de toute façon, ça prend du temps, donc je suis pas trop étonné, mais on aurait
pas
pu
encore racheté,
voir, ou alors en tout cas changer, peut-être pas changer le nom, mais en tout cas voir des choses. Imarsis, j'entends pas beaucoup parler sur le marché, donc
Monaco, non, parce que c'est même pas le gros sponsor de cette édition, mais on risquera peut-être de les voir. Un café avec, vous savez, c'est notre rubrique où on reçoit un invité, on papote tranquillement autour d'un café. Et cette semaine, nous avons reçu, pour la troisième fois je crois, Eli Ozanski, qui est un expert du e-commerce, un expert de cet écosystème. Il est passé par diverses solutions, du paiement, des agences. Cette fois-ci, il ne nous parle pas de son nouveau job, non, il nous parle de l'écosystème e-commerce. Il nous dresse un panorama technologique, mais pas technique, donc restez avec nous, pour ceux qui ne sont pas très techniques, de cette rentrée. Et aujourd'hui, nous prenons un café avec Eli Ozanski. Salut Eli.
Bonjour Eli.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, welcome back.
Merci,
c'est
ça fait plaisir.
C'est pas la première fois que tu passes au micro.
Alors c'est pas la première fois, mais il y a peut-être des personnes qui te connaissent pas. En plus, il y a eu des changements récemment dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas?
Exactement, donc moi c'est Eli Ozanski, je suis dans l'e-commerce depuis 6 ans, je suis alsacien, je suis très fier d'être alsacien. J'aime le foot, j'aime le hummus et je suis business developer tech au sein de BigCommerce sur les marchés français et italiens.
Super. Avant d'arriver chez BigCommerce, c'est quoi ton background un petit peu e-commerce?
Alors, j'ai fait plusieurs très belles boîtes dans la tech, plutôt des boîtes françaises. D'abord dans les marketplaces au sein de Iceberg. Et puis après, je suis passé dans le monde du paiement, le monde captivant du paiement, chez PayPlug, la fintech donc sur le paiement.
Qui est passé également au micro.
Qui est passé également au micro récemment et qu'on salue.
Eli, on comprend que tu as une expérience solide et certaine dans l'e-commerce. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'écosystème e-commerce? Parce qu'en plus, tu es passé par des briques différentes du e-commerce.
Exactement. C'est compliqué de donner une définition, juste une seule définition. Naturellement, on pense à toutes les solutions tech qui vont aider à la performance de l'e-commerçant ou du retailer pour vendre plus, pour vendre mieux, pour l'aider dans son quotidien. Mais après, il y a une deuxième partie de l'écosystème aussi qui sont plus des métiers de service. Il y a énormément d'agences et en France, on a un immense et magnifique terrain d'agences web, d'agences conseil qui vont pouvoir permettre aux e-commerçants de performer. Des cabinets de conseil spécialisés aussi. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui sont passés et qui passent régulièrement sur le podcast. Des intégrateurs aussi, des gens qui sont spécialisés dans la création d'app, parce que finalement, toutes ces briques tech qui existent, il faut pouvoir les connecter pour créer une expérience unifiée, pour pouvoir créer des ponts et faciliter toujours la vie des marchands. Et après, il y a encore plein de solutions qui vont permettre d'aider le quotidien des marchands et des commerçants. Là, on peut parler de l'emailing, on peut parler du marketing automation. On n'est pas vraiment dans le cœur de l'écosystème e-commerce, mais c'est quand même des choses finalement qui en font partie. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu la Paris Tech Week et on a vu à juste titre beaucoup de ces solutions.
J'aime bien dans ta définition de l'écosystème que ce n'est pas simplement des solutions, mais c'est tous les acteurs qui sont de près ou de loin qui évoluent dans ce secteur. Effectivement, il y a plein d'agences et ensuite elles ont chacun leur rôle. Et quand tu parlais d'emailing, en fait, la difficulté de la définition, c'est que ça touche tellement de choses, c'est tellement transverse que tu trouves plein de solutions qui, c'est peut-être pas leur corps de cible l'e-commerce, mais elles ont des références ou elles ont une expertise sur l'e-commerce.
Exactement, ouais. Là, on a cité l'emailing, mais même l'ERP. Les ERP, les plus grosses boîtes tech, les SAP, les Microsoft, les Oracle, finalement, se sont nés autour de solutions ERP. Aujourd'hui, on ne peut pas penser à un ERP sans penser à une brique digitale, à une axe digitale. Pourtant, on ne peut pas forcément non plus dire que l'ERP fait partie de l'écosystème e-commerce. Donc, c'est dur de mettre vraiment un cadre là-dessus.
Bah, Elie, du coup, tu emboîtes ma prochaine question. Moi, je voudrais parler un petit peu des besoins du marché. Les marques typiquement françaises, bah, une DNVB, elle a besoin de quoi? Aussi bien d'un point de vue technologique que dans son écosystème, elle a besoin de parler à qui? Comment est-ce qu'elle évolue?
C'est une très bonne question. Bah, déjà, je pense que c'est important de voir quand même, d'essayer d'entrevoir. Alors, c'est pas facile quand on lance un produit, on lance une marque, d'essayer d'entrevoir quand même quelle est la strate à 5 ans que je vais avoir. Est-ce que je vais aller me diriger vers du retail physique? Est-ce que je veux me diriger vers des points de vente? Est-ce que je vais me diriger vers des distributeurs multimarques? Est-ce que j'ai l'intention d'ouvrir directement des nouveaux pays? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est souvent, on va dire qu'il y a, faut forcément se lancer. Il ne faut pas non plus faire des business plans dans tous les sens, faire des plans, faire plein de présentations. Et finalement, si ça reste à ce stade-là. Mais c'est quand même important d'avoir un cap et du coup de choisir un petit peu sa solution, ses solutions avec un cap. On voit pareil dans le monde du logiciel. Il y a plein de boîtes qui créent un début logiciel avec des, on va dire des bouts de code et finalement ils se retrouvent avec une dette technique parce que ça a été mal forcément pensé au début. Bah, finalement, dans le développement d'une boîte, c'est un peu pareil. On va peut-être se.
Donc, pour toi, objectif, selon les objectifs qu'on a définis, on s'oriente vers telle ou telle solution.
Exactement, et aussi penser directement à des solutions qui ont aussi, on va dire, qui seront aussi performantes dans 5 ans. Et regarder aussi la maturité des solutions et leur modernité aussi.
Justement, un des axes qu'on voulait discuter, c'est une des raisons pour lesquelles t'es au micro aujourd'hui, c'est ton expertise sur l'écosystème technologique e-commerce. Et j'aimerais bien en parler quelques minutes avec toi. J'aimerais bien comprendre, tout est cycle, donc il y a toujours des va-et-vient. Et aujourd'hui, en ce moment, on entend parler beaucoup depuis quelques temps des API, headless, composables, etc. Est-ce que j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est au niveau du cycle? Est-ce qu'on est au début ou à la fin? Est-ce que c'est un vrai cycle ou pas? Et où on en est sur le marché? Tu vois, la maturité particulièrement du marché français, tu la vois où?
Je pense effectivement qu'on en est au début. Donc là, on commence vraiment à plus en plus à parler de même au-delà du headless ou de l'API first, mais de la Mac Alliance. Donc je sais pas si ça vous parle,
mais tu peux le rappeler. Ouais.
Exactement. Donc c'est on va dire c'est une manière aujourd'hui de concevoir du logiciel M pour microservice, donc vraiment compartimenter les différents éléments du software. Et puis API first évidemment pour pouvoir facilement se connecter à tout un écosystème. Cloud, le SaaS évidemment, hébergé sur des serveurs mutualisés, et headless dans le sens où c'est pas forcément un cœur monolithique par lequel on va rajouter des solutions autour. Et lorsqu'on voit justement, c'est surtout sur cet axe-là effectivement qu'il y a, on va dire, le plus de choses à faire. Historiquement, le software et surtout le monde de l'e-commerce, c'était un cockpit. D'ailleurs, c'était le nom du back-office d'une grosse solution, avec tout un écosystème autour. Et du coup, c'était dès qu'on voulait virer une brique, ça devenait, désolé de le dire, mais un bordel sans nom. C'était des coûts hyper chers pour les clients. Et aujourd'hui, plein de solutions qui vont sur ce marché, qui permettent de s'en servir beaucoup plus facilement, qui permettent de décorréler le back-end du front-end, qui permettent de prendre le PIM le plus performant du marché, la solution de search la plus performante du marché, un OMS pour pouvoir facilement connecter ses points de vente, mais vraiment prendre le meilleur de chaque solution, construire son écosystème technique. Pour un intégrateur, c'est trop bien parce que c'est des projets beaucoup plus sympas sur lesquels bosser aussi, et surtout pouvoir se concentrer sur des éléments qui vont être héroïstes pour le commerçant.
Si on est d'accord sur le fait que deux choses, un, le headless c'est le sens de l'histoire parce que et ou deux, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bénéfices pour le consommateur in fine et pour la marque, est-ce que tu as l'impression que on est au début là de cette vague et qu'encore tout reste à faire sur l'headless, ou l'ensemble des solutions, la majorité des solutions, elles sont déjà headless et prêtes à aborder le marché de cette manière?
Il y a encore énormément à faire, mais ça dépend aussi des gens auxquels je parle. Bon, c'est facile parce qu'on a eu la Paris Retail Week assez récemment. J'ai parlé, du coup, c'est cool, on a tous parlé avec plein d'acteurs. J'ai parlé avec plusieurs agences, il y en a qui m'ont dit le headless aujourd'hui, c'est 90% de mes appels d'offres. D'autres m'ont dit que c'était 10%. Donc vraiment, en fonction aussi de quel écosystème techno on vient de la base, si on vient plus du monde déjà PrestaShop, si on vient plus du monde Magento, on va pas avoir accès aussi aux mêmes appels d'offres, aux mêmes consultations, aux mêmes problématiques qu'ont les clients. Et donc forcément, on va pas forcément saisir tous les enjeux de ce que je pourrais répondre et de ce qui va fonctionner après-demain.
Là, tu viens de mettre un doigt sur un truc intéressant, c'est que les acteurs historiques, vu qu'ils ont une dette technologique, ils ont installé une solution, elle est pas nécessairement headless ou elle a pas été architecturée de cette manière, donc c'est très dur de migrer et de refaire une infrastructure. Par contre, les nouvelles solutions, toutes les nouvelles startups, tu vois, je parlais avec un acteur du paiement, il m'a sorti le mot headless. J'ai souri parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'aurais jamais imaginé quelqu'un du paiement, et en fait, ça a été repris, c'est repris un peu partout, et on voit en fait cette dichotomie du marché, les nouveaux acteurs qui comprennent les buzzwords ou qui comprennent les nouvelles architectures, et puis les anciens qui essaient de rattraper. Tu le vois ça?
Exactement.
Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Alors toi, t'emploies le mot dichotomie, mais oui, effectivement, ce que tu disais.
C'est des mots compliqués, Laetitia. Je l'ai appris ce matin.
Tu peux l'écrire ou pas?
J'ai ouvert le dictionnaire à la lettre D, tu vois.
Mais je trouve que tu as une très belle dichotomie aujourd'hui.
Élie, t'étais présent à Paris Street Tech Week. Du coup, t'as vu de nouveaux acteurs. T'as vu des gens qui sont dans l'innovation. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont comme ça popé dans ton esprit? Tu te dis, mais c'est génial. Moi, par exemple, j'ai discuté avec Klarna. Je trouve que c'était génial. Toi, il y a des acteurs comme ça
Exactement. Bon, déjà, tu as rencontré BigCommerce aussi, donc c'est un bel acteur.
C'est vrai, ouais, très bon acteur. Ouais. Pointe de l'innovation, headless, composable commerce, tout y était.
Tout y était, exactement. Effectivement, le paiement, tu as mis le point là-dessus, c'est un des... Il y avait pas mal de gens m'ont dit, est-ce qu'on est au Payments Retail Week ou au Paris Payment Week? Parce qu'il y avait énormément d'acteurs qui étaient dans le paiement. C'est un marché qui...
Mais drive l'innovation, enfin, pour moi.
Drive l'innovation. Ils ont aussi des financements qui leur permettent d'y aller.
Ils ont les moyens, exactement.
Cool, parce que ça tire le marché vers le haut, notamment le paiement fractionné. Donc, t'as vu Klarna, mais il y avait aussi Alma qui était présent côté français. Même sur les fameux tapis roulants pour accéder à la Paris Tech Week, on nous a fait plein de prospectus sur d'autres solutions de paiement fractionné.
Donc, ouais, pour toi, le paiement fintech, c'est vraiment la pointe de l'innovation e-commerce. En tout cas, ça drive l'innovation e-commerce.
Ça drive l'innovation. Après, il y a plein d'autres solutions aussi. Je pense notamment dans l'OMS. On a beaucoup d'acteurs qui facilitent, on va dire, l'unification des stocks, qui a toujours été le pain point
de l'omnicanal. Ouais.
Et après, on a vu assez finalement peu d'acteurs, par contre, qui réinventaient vraiment le monde un peu ERP, qui est finalement le monde de papa.
Stone Age.
Stone Age, exactement, avec des technologies souvent hyper fermées. Et c'est peut-être la brique, on va dire, où il y a encore peut-être des choses à innover.
Il y a quelques années encore, le paiement, bah, du coup, tu viens aussi du paiement, c'était pas, on voyait pas ça comme innovation et on se disait pas que ça allait être le fer de lance du e-commerce. Donc peut-être qu'un jour, des acteurs ERP un peu traditionnels, on les verra sous un autre jour, peut-être beaucoup plus innovants.
Ou on en verra d'autres.
Ouais, exactement. Élie, on a parlé écosystème, on a parlé innovation. Moi, j'aimerais qu'on parle de tendance. Tu as dû faire tes petits devoirs, tu es venu avec 4-5 tendances. Tu nous les partages?
Exactement. La première, bien sûr, on en parle déjà depuis un moment, mais c'est l'omnicanal. Vraiment, à la fois dans la partie unifier les différents points de vente, c'est un peu avec du online et offline, c'est la version qu'on entend en Europe, mais aux US, c'est aussi beaucoup. Comment, depuis un seul outil, je vais pouvoir piloter mes canaux de vente TikTok, Instagram, le offline, le online, donc vraiment une vision plus omnicanal que ce qu'on entend en France finalement, qui est juste point de vente versus
site. Alors, comme tu viens de le citer, maintenant on a des canaux de vente type TikTok, social commerce, qu'on n'avait pas forcément prévu dans sa strat.
Exactement, et aujourd'hui avoir une solution qui nativement, on va dire, parle avec les canaux de vente des consommateurs, c'est clairement hyper important. Et ça, il y a de plus en plus de marques qui le font, et bravo, mais on voit qu'il y a encore un peu de boulot à faire. Notamment, là, j'enchaîne sur une deuxième, du coup, qui est le M-commerce. Oui, aujourd'hui, les acheteurs, surtout dans le B2C, achètent en ligne. Pourtant, quand on voit, il suffit d'aller voir les équipes e-commerce de la plupart des marques. Alors, c'est pas du tout pour leur taper dessus. Beaucoup d'entre elles font un super boulot, mais on les voit encore bosser sur desktop. Et regarder leur site
en desktop.
Je veux dire
que mobile first, en fait, ça n'existe pas.
Mot qu'on voit souvent, ouais. On en parle énormément. Mais derrière, il faudrait, en fait, peut-être que les directions digitales paye juste un iPhone ou un Android, ouais. Plutôt Android d'ailleurs, parce qu'il y a plus de gens sur Android en France, pour voir en fait qu'est-ce que voit leur acheteur. Hein.
Toutes les démos que je vois, elles sont faites sur des desktops, sur des slides,
ouais,
etc. Et alors sur Chrome, t'as une petite, c'était une de mes recos d'ailleurs, tu peux le transformer en mobile. C'est vraiment littéralement en un clic, tu peux avoir la vue mobile. Et je crois que c'est un vrai point, il faut continuer à éduquer et à évangéliser, parce que franchement, tout le monde est sur mobile, je suis d'accord avec toi. En tout cas, les stats, ça y est, on a dépassé les 50%, je crois que c'était il y a deux ans ou il y a un an ou deux ans, on l'a commenté, où il y a plus de trafic et plus de commerce sur le mobile. Et ça a encore grandi. Ok, pour la deuxième tendance, la troisième.
On voit quand même le B2B. Hein. C'est le Covid aussi a accéléré sa digitalisation. Les acheteurs B2B, c'est des gens qui sont aussi de plus en plus jeunes, donc des gens qui achètent dans leur vie tous les jours aussi sur Internet. Donc clairement, aujourd'hui, n'importe quel secteur, avec les outils du marché, peuvent se lancer en ligne en B2B.
Et il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, je suis surpris d'entendre parler de B2B. Beaucoup, je l'entends parler via les marketplaces. Tu vois, ils sont beaucoup appropriés, je trouve, cette communication autour de ça. Ouais, cet espace, parce que B2B, ça a toujours existé. Peu en parlent parce que c'est peut-être pas très sexy. Et d'ailleurs, on avait commenté qu'il n'y avait pas de salon e-commerce B2B dédié. Et quand je me baladais dans les salons ou quand on regarde un peu sur le marché, les marketplaces communiquent pas mal autour de ça. Donc, OK pour le B2B. Une autre tendance que tu voyais?
Oui, peut-être aussi la partie, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais la partie SaaS versus open source est vraiment sur, on va plus les centres de coûts et les centres de... et la dichotomie, évidemment, on aime la dichotomie.
Évidemment.
Les centres de coûts versus les centres de profit, en fait, quels vont vraiment les centres d'investissement d'une BU, e-commerce ou du DSI? Est-ce que finalement, ça doit être, comme ce qu'on voit historiquement avec l'open source, l'infogérance, la mise à jour de modules, de l'hébergement, ou c'est vraiment se concentrer sur des briques plus front? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup trop de BU qui délaissent le front-end. Comme il laisse le M-commerce et la vision mobile first. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment crucial de se dire, bon, se décharger de toute la partie, on va dire, un peu plus chiante, hein, parce qu'honnêtement, moi je parle plus aux équipes marketing qu'aux équipes DSI, donc désolé pour ça, mais vraiment se concentrer sur ce qui va faire augmenter des points de conversion.
Des points de conversion,
et, ouais. Moi encore, je trouve ça fou qu'on ait encore l'effet capital, dans le sens où tu vois un site sympa qui passe sur M6, tu veux acheter le produit,
Et
ça aussi, t'as aujourd'hui plein de. Bah, je pense que toi, je sais que Laetitia, t'es très active sur Instagram.
Je suis une influenceuse, ouais, tu peux le dire.
Tu es une influenceuse, exactement. Et bah, tu vois énormément aussi d'autres influenceurs qui ont leur marque, qui lancent leurs produits avec une période très limitée, souvent sur des ventes privées qui vont durer que quelques heures. Et bah, souvent, au bout d'une demi-heure, le site est
dedans. En quoi c'est à cause de l'open source?
Alors, c'est pas du tout à cause de l'open source, c'est à cause de sûrement aussi des.
Un mauvais sizing, une mauvaise architecture ou quoi que ce soit.
Un mauvais sizing, mais c'est pas forcément évident aussi de savoir combien. De transformer une audience sur Instagram et un nombre d'abonnés en nombre de pages qui vont être vues.
Exactement, tu peux pas. Comment est-ce que tu le traduis? Tu le sais pas. Et puis, bah voilà, c'est une économie un peu de self-service. Et puis, quand tu as lancé ton site sur Shopify, t'as aucune idée de comment est-ce que tu vas faire pour que ton site soit plus performant parce que tu as passé dans Capital et machin. T'y penses même pas, quoi.
Exactement.
Alors, c'est pas ta préoccupation du tout.
Exactement, mais ça devrait l'être vraiment, ouais. L'anticipation aussi. Et est-ce qu'on a des plateformes qui vont pouvoir fonctionner? Alors même avec le SaaS, hein, il peut y avoir d'autres briques qui sont liées au site sans forcément être le cœur du site, qu'il faut regarder avec attention. Mais en tout cas, grâce au SaaS, il y a déjà quand même moins, on va dire, de
friction
potentiel, ouais. De friction, exactement. Et si on reste sur l'open source, qui est aussi ce qui peut en plein de cas être un très bon choix. Bien anticiper pour ne pas se retrouver après avec un site qui est down très rapidement.
Ok, merci beaucoup Ellie.
Merci beaucoup Ellie. Ellie, si on veut aller plus loin avec toi, si on veut te contacter, comment ça se passe?
Alors vous pouvez se connecter avec moi sur LinkedIn, donc Ellie Ozanski. Je serai ravi de parler avec vous de McAllions, dont c'est parlé, de Headless, vous en dire plus aussi sur BigCommerce.
Et de Dichotomie.
Et surtout de dichotomie et comment devenir un influenceur.
Je suis aussi très actif dans le groupe WhatsApp. Donc, s'il y a des questions, je sais que toi, tu réponds souvent.
Du café,
donc, vous avez les liens en commentaire. Merci beaucoup, Ellie. On mettra un lien vers ta page LinkedIn. Et puis, on se dit à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Merci, Ellie.
Reco Micro.
C'est
j'ai
jingle,
reconnu.
Je n'aime pas. C'est jingle,
moi, je l'adore. Mary J. Blige. Bon, allez, au micro, on fait notre reco. Écoutez la illico presto. Retrouvez toutes nos recos. N'oubliez pas sur la page Notion du podcast Le Café de l'e-commerce. On vous met le lien dans la description de cet épisode. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
Ma reco de la semaine, c'est de retourner sur les basiques, c'est-à-dire faire des recommandations qui sont dans l'e-commerce et notamment un podcast que j'ai gardé là pour toi. Donc, c'est quelqu'un que j'avais déjà recommandé sur son flux LinkedIn parce que ce qu'il raconte, c'est pas débile. Il est basé au UK, il s'appelle Rick Watson. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est, on va dire, un peu un influenceur LinkedIn positionné sur l'e-commerce. Et il a lancé son podcast il y a quelques semaines, il s'appelle le Watson Weekly Podcast. Ça dure pas très longtemps, c'est ce que j'aime bien. Je crois que ça dure moins de 30 minutes les épisodes, ils sont une dizaine, vingtaine de minutes, donc c'est plutôt facile à écouter. C'est toujours des analyses intéressantes. Et puis en complément, si vous le suivez sur LinkedIn, c'est toujours bien de l'écouter en podcast. Donc ça sera ma recommandation de la semaine. Laetitia, quel reco tu as? Est-ce que c'est une newsletter pour reprendre l'année?
Non,
tu vois,
mais
avec
je suis déçue. En fait, on ne communique pas parce que moi aussi, c'est un podcast. Alors c'est un podcast, mais plutôt, je dirais, une capsule parce que c'est très très court. Ça dure en général moins de 3 ou 4 minutes. Ça s'appelle TechPaf et vous pouvez le trouver sur le site de Radio Nova ou alors sur Spotify et Deezer. Et en fait, c'est une petite capsule dédiée à la tech.
Il y a des épisodes sur le e-commerce et c'est hyper bien expliqué parce que c'est condensé, c'est en 2-3 minutes. Et ce sont des journalistes tech qui sont appelés au micro et qui décryptent très rapidement un phénomène. Donc moi, j'ai écouté là très récemment le phénomène Facebook, la panne. Vous avez aussi une capsule dédiée à Astro, le petit robot d'Amazon. Mais c'est expliqué de manière hyper simple. Et du coup, si vous n'avez pas le temps de faire de votre veille et qu'il y a un sujet qui vous intéresse, bim, vous piquez.
C'est
et vous
pour
écoutez.
Les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital, etc.
Non, il faut quand même avoir quelques petites connaissances quand même parce que, je pense qu'il faut quand même avoir des connaissances, mais voilà, ça se lit, ça s'écoute très rapidement.
Non, pas du tout.
Et donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Radio Nova ou sur Spotify ou sur Deezer. Et j'ajoute que dedans, il y a une collaboratrice que j'adore. Elle s'appelle Sophie Comte et c'est la rédactrice en chef et créatrice du magazine Chute le Média, qui est dédié à la tech et au numérique et au féminisme.
On fait bonjour aux copains, les dédicaces comme à la radio.
Exactement.
Et
bah ouais.
Et
ouais.
Et ouais. On passe.
Mais non, mais quand les gens font des choses bien, bah oui.
Mais là, c'est toutes tes copines, je crois qu'elles sont
mes
épisode,
copines, exactement. Panier surprise. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et où on s'amuse, même si on s'est déjà détendu, on s'est déjà amusé a priori. Adrien n'est pas le maître du jeu. Si, t'en as un. Bon, bah moi aussi, donc nous sommes les maîtres du jeu. Et puis on s'amuse autour du digital. Adrien, cette semaine, tu as un what the fake. Rappelle-nous ce que c'est que le what the fake.
Le what the fake, c'est très simple. J'ai pris des titres de news. Certains sont vrais, certains sont faux. Et l'objectif pour toi, c'est de me dire est-ce que c'est une fake news ou pas, est-ce que c'est fake ou pas. Laetitia, est-ce que t'es prête? J'en ai quatre. Alors regarde
ready.
Pas mon écran,
mais je sais
qui
pas,
le regarde.
C'est
je sais très bien. Tu détestes quand j'insinue que tu pourrais tricher. Je sais que tu réagis très mal. Je prépare le jingle. Mauvais, ok, parce que là je pense que je vais l'utiliser. T'as la pression maintenant. Alors, première news. Nike se lance sur la blockchain avec sa crypto Nikecoin pour permettre aux fans d'acheter des baskets plus simplement.
Ah non, je te dirai tout de suite, vrai ou pas faux.
Ah oui, bah oui.
Ah ok, vrai.
C'est complètement faux, mais je sens que je vais avoir un all-in. Alors c'est complètement faux. En plus, Nikecoin, ça fait du con. C'était plausible.
C'est plausible.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déposé il y a 18 mois, je crois.
Donc c'est vrai.
Voilà. Tu adores faire ça. Coupez la part au début, tu sais même pas ce que j'allais dire. Ils ont déposé un concept CryptoKicks qui permet avec le réseau Ethereum de faire de la traçabilité sur la blockchain avec les baskets. Ils ont rien mis en place, certainement ils y réfléchissent ou alors ils planchent dessus et puis un jour ça va arriver. Mais en tout cas, tout ce qui sur la crypto.
Mais ce qu'on retient, c'est qu'ils y réfléchissent.
Ouais, attends, Laetitia, il y a pas une boîte qui ne réfléchit pas à la blockchain ou qui n'a pas eu une réunion avec blockchain sur les slides. Donc tout le monde a réfléchi. Là, ils ont juste acheté un nom de domaine, je crois, ou déposé.
Donc ça peut aller dans la news, on s'en balèque, hein. Je suis désolée.
Oui, mais c'est
pas
une news, c'est faux. Oh Laetitia, je sens que cette année va être longue. Deuxième news, après Amazon Go, Auchan lance Auchan Go, son magasin sans caisse.
Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu.
Bravo.
Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que Auchan refusait de discuter avec Carrefour pour une éventuelle
fusion,
voilà.
Le nom Auchan Go, qu'est-ce que t'en penses? Ils auraient dû changer ou non? Comme ça, les gens, ils savent ce que c'est. Amazon Go, Shango, ça y est, tout le monde va faire le Go.
Ah oui, c'est facile.
Ok.
Bon, faut pas payer une agence pour ça, hein, par contre, les gars.
On passe à la suite. Alors, Bergamot se lance dans la seconde main dans la région de Lille pour commencer avant de se déployer en 2022 sur d'autres régions.
Bergamot, les plantes, on est d'accord?
Oui.
Ok. Seconde main de plantes. Bah ouais, je pense que ça peut être possible. Alors, tu rigoles, sauf que... Mais ils rigolent. Non, mais vous savez que la mairie de Paris organise tous les ans un espèce de déstockage, donc de la seconde main, des plantes qui sont utilisées dans les jardins publics de Paris, et vous pouvez les acquérir. Donc tu rigoles, tu fais le malin, mais ça existe
non,
déjà,
écoute,
en fait.
Quand j'ai réfléchi à cette news que j'allais inventer, je me suis dit, quel est le truc le plus improbable pour faire en seconde
c'est
main?
C'est possible.
Ouais, et après, je vais te faire de la nourriture en seconde main dans une semaine, tu vas me dire, oui, c'est possible.
Mais non, mais regarde, t'as la mairie de Paris qui le fait, okay, et je te jure que c'est des moments où il y a beaucoup de monde qui y vont.
Très bien, Laetitia. En tout cas, c'était une fake news. Et enfin, la dernière, t'as tout faux pour le moment? Ah non, t'as
non,
là,
j'en
un,
ai un bon.
Un sur trois. Et le dernier, Google durcit ses règles sur l'authentification forte pour ses services, ce qui fait renaître le marché des tatous et des tam-tams.
La moitié des gens n'ont pas connu les tatous et les
tam-tams. Je sais. Mais bon, justement, ça va revenir.
Mais non, faux.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les tatous et tam-tams, justement?
Mais tu sais, c'était les petits beepers, là.
Ouais.
Mais
voilà. Tu sais, la news là, que j'ai inventée, elle est complètement
dans une
fake.
Dans une cabine téléphonique.
Pour le coup, c'est pas débile. En fait, ça fait penser un peu au YubiKey et compagnie. Tu retiens un truc. Donc, la news est fausse, on est d'accord. Mais c'était un petit device que tu avais. Tu appelais un numéro où tu envoyais un SMS et tu pouvais le recevoir. Tu voyais juste 8 caractères ou ce genre de choses. Imagine que tu as ce petit truc dans la poche et quand tu reçois le notif Google d'un SMS, tu le reçois directement sur un petit écran et pas sur ton téléphone, aller chercher les SMS, etc. Je lance une idée.
Allez,
bon, bref, donc c'est complètement. arrive à, je crois que c'est dans les années 80, un truc comme ça, début des 90, ça fait quelques années, ça a complètement disparu.
C'est les années 90.
Exactement.
Donc, on était un peu comme les médecins, là, vous savez, là, dans l'urgence.
Non, mais c'était très cher à l'époque. Hein, donc non, oui, enfin, moi, j'en ai pas eu, mais c'était très, très cher. Laetitia, on passe à la suite. On passe
bon,
à ton
allez,
jeu.
C'est bon. Mon jeu, c'est le chiffre de la semaine et je l'ai intitulé Le Milliard en référence à le million, le milliard. Bref. Un milliard, Adrien. Ne regarde pas, s'il te plaît. Si je te dis un milliard, tu me réponds, c'est le nombre de dollars perdus par le groupe Facebook lors de la panne mondiale. C'est le nombre d'utilisateurs TikTok. Ou c'est le nombre de nouveaux utilisateurs de la messagerie Signal.
Un milliard ouais. Alors, c'est pas le nombre Signal, non. Perte de Facebook, pourquoi pas. Et le deuxième, rappelle-moi.
Le nombre de nouveaux utilisateurs sur Signal.
Non, non. Et c'était l'autre, le TikTok, c'était lequel?
Le nombre d'utilisateurs TikTok. On répète. Allez. Ouais, ouais. Le nombre de dollars perdus par Mark Zuckerberg.
Je dirais TikTok, mais je pense que c'est plus important qu'un milliard. Mais je dirais TikTok.
Non, bah qu'est-ce que tu dis alors?
Je dis TikTok.
Tu dis TikTok?
Ouais.
Ok, c'est TikTok, bravo.
C'est pour ça que t'as devait être sûr, c'est ce que tu veux, tu ne pas changer.
Alors, juste pour préciser, le nombre de dollars perdus par Mark Zuckerberg dans la nuit de lundi à mardi s'élève à 7 milliards de dollars, donc 6 milliards d'euros. Le nombre d'utilisateurs TikTok, ça y est, c'est 1 milliard, c'est complètement ouf. Et le nombre de nouveaux utilisateurs de la messagerie russe Signal dans la nuit de lundi à mardi, eh ben c'est 70 millions. Donc en gros, les gens avaient tellement cette peur là de disparaître et de pas communiquer qu'ils sont allés. Il y a 70 millions d'individus dans le monde qui se sont dit allez, je vais aller sur Signal.
Et puis une semaine plus tard ou trois jours plus tard, ils sont retournés. Donc, voilà.
90%. Bon bah bravo, t'as gagné. Allez,
merci
next.
Beaucoup, Laetitia. Une fois que j'ai quelque chose de positif, c'est cool.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis lors de ce live, à vous qui nous écoutez. Merci, c'était un super moment. C'était une belle reprise. Pour retrouver les références à cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. Et n'oubliez pas, nous avons un Notion que nous partageons avec plein de ressources, des acronymes e-commerce, avec toutes nos recos micro. Et qu'est-ce
les
qu'on a d'autre? Et la liste des événements e-commerce.
Et puis les ressources pour se former en e-commerce, si ça vous intéresse, on a fait un plan de
et
cours,
surtout,
un plan de formation.
Si ça vous plaît, et même si ça vous déplaît, bah c'est pas grave, vous allez quand même sur Apple Podcast et vous nous laissez 5 étoiles, on tolère pas moins de 5 étoiles. Et si c'est 5 étoiles, bah en plus vous mettez un joli commentaire.
Et le
merci.
Petit merdeux qui a mis une étoile, on va le retrouver,
ouais,
d'accord.
Exactement, alors ça je tiens à le signaler, il est anonyme, il a laissé juste une étoile et nous ça nous fait descendre et je suis pas contente. Mais peut-être qu'en même temps on fait de la merde et on le mérite.
En tout cas, merci Laetitia pour cette reprise, merci à tous. On va continuer à faire évoluer l'émission, on va rajouter des nouvelles choses et puis merci donc à Alexandre, Hubert, Grégory, à tous ceux, Julien et à tous ceux qui étaient sur le live et qui ont interagi
merci,
avec nous.
Merci, merci, merci.
À très bientôt. Ciao, ciao.
La princesse doit vous...
Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, cette musique! Oh!